Bonjour. Un plaisir de vous voir. Magnifique. Une église qui chante, qui loue Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent si c'était bien une bonne idée de revenir comme avant. En tout cas, pour la louange, je trouve que c'est très bien de revenir comme avant. Et je remercie beaucoup l'équipe qui nous a entraînés ce matin. Ça fait du bien. Le premier chant, j'avais les frissons de vous entendre, de nous entendre tous chanter, élever nos voix pour louer Dieu. L'encre de la foi, c'est notre prochaine série de prédications qui va s'étendre sur tout le mois de juin jusqu'à début de juillet. Et puis, on va parcourir l'épître aux Hébreux. Alors, ce n'est pas l'épître la plus facile, mais je nous invite à la parcourir au fur et à mesure. Je sais qu'on l'a déjà fait il y a quelques semaines avec la Ligue. Et puis, ce sera pour nous une occasion de continuer. L'encre de la foi, il y a même quelqu'un qui l'a tatoué sur son avant-bras. Je ne sais pas si vous arrivez à reconnaître l'avant-bras de qui. Francesco, exactement. C'est pas mal, hein? Puis il a tatoué ce verset. Alors, vous voyez, quand on fait des tatouages, c'est l'occasion de mettre un peu des langues spéciales. Alors, il a mis un peu de l'hébreu, puis il a mis un peu du grec aussi, parce que c'est les deux langues de la Bible. Et puis, c'est ce que vous avez sur les deux lignes. Puis sinon, il y a vraiment cette encre, l'encre de la foi, pour dire la nécessité d'avoir une foi ancrée. Je ne sais pas dans quel sens vous avez l'habitude de le dire, mais en tant qu'être humain, on a besoin d'avoir des ancres, c'est-à-dire des moments et des endroits de stabilité où on peut se poser, où on peut être sûr de différents éléments pour ensuite construire quelque chose de dynamique. Mais s'il n'y a pas de stabilité, c'est impossible d'être dynamique. Et pour notre foi chrétienne, c'est exactement la même chose. On a besoin d'avoir des ancres ou une foi ancrée. Et cette expression de « ancre de la foi », elle vient directement de l'Épître aux Hébreux, vous l'aurez deviné, au chapitre 6, verset 19, qui nous dit « Cette espérance, qui fait partie de la foi, hein, nous l'avons comme une ancre solide et ferme pour l'âme. » Et puis mon souhait, c'est que toute cette série de prédications que nous allons vivre sur Hébreux, ça puisse être pour chacun d'entre nous des ancres solides et fermes pour notre foi, car nous en avons besoin. On n'arrête pas de dire que notre monde, ça bouge dans tous les sens. Si j'avais un souhait, c'est que nous puissions, en tant que communauté chrétienne, bénéficier de cette ancre solide et ferme pour l'âme, parce qu'on en a besoin. Et si nous voulons aller de l'avant et regarder de l'avant, nous avons besoin d'avoir cette ancre solide. Ce n'est pas contradictoire. L'encre n'empêche pas le mouvement. L'encre n'empêche pas le dynamisme. Alors, si je vous parle d'hébreu, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de le lire, c'est quand même assez ardu. Puis normalement, on est plutôt avec hébreu, comme pour beaucoup de passages de la Bible, un peu avec la génération top 50. Je ne sais pas si ça rappelle encore quelque chose à certains d'entre nous. Génération top 50, c'est presque quand il y a de la réverbération, ça fait un peu comme dans une église cathédralesque. Top 50, c'est un peu de se souvenir simplement un ou deux ou trois versets qui nous parlent particulièrement. Par exemple, pour Hébreu, si je devais vous dire quel verset vous vous souvenez d'Hébreu, ce serait peut-être celui que je viens de citer, mais il y en a encore un qui est plus haut dans le top 50, d'après moi, c'est... Voilà, c'est bien joué. Hébreu 11.1. Puis si je demande encore vous en citer un troisième, je ne sais pas si vous y arrivez. Ah ben non. On n'y arrive pas, donc voilà, c'est bien la preuve que c'est pas forcément une mauvaise idée de pouvoir continuer dans cette direction-là, de lire l'ensemble de l'Épître aux Hébreux. Je dois bien vous avouer qu'il vous faudra un peu vous accrocher, hein. Ce n'est pas l'Épître la plus facile à lire, il y a des éléments qui sont assez spéciaux, notamment avec beaucoup de mentions d'anges, de symboliques qu'on a de la peine à voir, nous, dans notre vie de tous les jours, mais il y a ces perles-là que nous allons essayer de... Voilà, découvrir ensemble petit à petit. Pour ce matin, on va simplement se concentrer sur les trois premiers versets de cet épître. Trois versets qui donnent une direction, qui nous montrent où veut en venir l'auteur anonyme de l'épître aux Hébreux. Et je trouve ça aussi très bien de se dire qu'une fois de plus, on prend l'auteur qui est anonyme. On n'a pas besoin d'avoir une marque d'autorité. L'autorité, elle vient simplement que ce texte a été retenu dans le canon biblique et qu'il est considéré comme inspiré. Et puis, qu'est-ce qu'il nous dit cet auteur ? Autrefois, Dieu a parlé. Il a parlé aux ancêtres par les prophètes, et il leur a parlé souvent et de mille manières. Maintenant, en ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par son Fils. Et c'est par ce Fils qu'il a créé le monde. Et c'est lui que Dieu a choisi pour entrer en possession de toutes choses. Jésus comme parole de Dieu pour nous. Pour nous évangéliques, on a un petit problème à ce niveau-là. Parce que si j'avais posé la question, pour vous, la parole de Dieu, c'est quoi? Je pense que 95% auraient répondu, c'est la Bible. Ce n'est pas complètement faux. Rassurez-vous. La Bible nous parle aussi très souvent de la parole de Dieu en une personne. Tout ne se limite pas à un livre. Et cette personne par laquelle Dieu nous parle, c'est Jésus. Donc si vous vouliez vraiment donner une réponse complète, si on demande quelle est la parole de Dieu, vous pouvez dire la Bible et Jésus-Christ. Puis c'est très important de faire la nuance. Parce que Dieu, et puis là c'est aussi assez intéressant sur la manière dont nous avons de lire la Bible, où souvent on pense que c'est un peu monolithique, puis qu'il y a une seule manière de la lire, même dans la Bible, qu'est-ce qu'il nous a dit? Que Dieu, il nous parle de mille manières différentes. Ça nous en met un peu quoi dans le, dans le coin du visage. Hein. On pense toujours que c'est la parole de Dieu, c'est monolithique, c'est comme ça, il n'y a pas de différence et tout et tout. Et dans la Bible elle-même, il nous dit que Dieu est beaucoup plus divers que ce que nous, on veut bien croire, que ce que nous, on veut bien penser. Et ça, c'est aussi une vérité qui fait du bien. C'est une vérité qui nous rafraîchit, une vérité qui nous illumine d'une certaine façon. Par Dieu nous parle, et il nous parle en plus souvent et de mille manières. Jésus est la manière dont Dieu a décidé de nous parler avant tout, j'ai même envie de dire. Cette ancre de la foi, si vous voulez retenir un seul truc de ce matin, c'est ça, c'est ce Jésus-Christ qui nous parle, et le Fils de Dieu, et Jésus-Christ, et ça on va le voir dimanche prochain, qui est également notre frère. Ce matin, on va s'intéresser sur Jésus-Christ, Fils de Dieu, et on va voir ce qu'il en est. Jésus-Christ, Fils de Dieu, c'est évidemment le centre de notre foi. Je pense que pour la plupart d'entre nous, je ne nous apprends rien à ce niveau-là. Mais ça pose quand même quelques petits problèmes, et je vais essayer de vous les développer. Je ne sais pas si vous avez essayé de discuter, on était dans la rue hier, alors on n'a pas eu l'occasion, en tout cas moi personnellement, d'aller si loin dans la discussion, mais quand j'ai des discussions avec des amis non chrétiens, je dirais que si je parle de Dieu, c'est encore relativement facile. Parce que Dieu, ça peut être un concept, ça peut être une idée, même tous les philosophes, ils ont à un moment donné dans leur raisonnement l'idée de Dieu, et puis on peut assez facilement se discuter là-dessus, parce que finalement on le met à distance, et c'est quelque chose d'assez abstrait. C'est le concept de Dieu, c'est une idée un peu générale qui regrouperait beaucoup d'éléments, parfaits, plénitude, omniprésence et tout et tout. C'est encore assez facile à imaginer, puis globalement, dans le dialogue avec nos contemporains, ça passe pas trop mal. L'esprit, c'est aussi pas mal actuellement. On parle beaucoup de spiritualité, puis alors là, il ne faut pas oublier de mettre le S, hein, c'est très important. C'est des spiritualités qui sont en vogue à différents esprits. Il y a des esprits un peu tout partout, ça plane, c'est assez flou, c'est assez peu déterminé. Dans le monde ésotérique notamment, on en trouve des quantités d'esprits qui peuvent être décrits avec plus ou moins de créativité. Mais toujours est-il que si on parle d'esprit, puis qu'on dit à nos contemporains que tout ne se réduit pas à notre propre nature et à notre propre environnement, mais qu'il y a une quantité d'esprit, généralement ça passe assez bien. Ce n'est pas trop un problème. Pour les Juifs et puis pour tout l'Ancien Testament, Jésus, ça pose aussi un problème conséquent. Pourquoi? Quel est le premier des commandements? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'adoreras qu'un seul Dieu. Et puis, ils ont dû se battre contre quoi? Toute l'histoire du peuple d'Israël, ils ont dû se battre contre quoi? Les idoles et les faux dieux. Alors, imaginez, je ne vais pas développer ce matin, mais imaginez un tout petit peu la prédication chrétienne dans le contexte du premier siècle chez des Juifs. Depuis tout petit, on leur a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et tout à coup, arrive Jésus-Christ, le Messie, il l'attendait en plus, et on vous dit, en fait, maintenant, Dieu, il n'est plus tout seul, il a aussi un fils. Ça en fait deux, hein? Il n'est plus tout seul. Est-ce que c'est un autre Dieu devant notre face? Si je suis un enfant juif ou un adulte juif du 1er siècle, lorsqu'il y a la première prédication des apôtres. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé cette question avec cette idée-là de s'imaginer, de se mettre dans la peau d'un enfant ou d'un adulte juif du 1er siècle. Et c'est toujours la même question pour eux actuellement au 21e siècle. Est-ce possible d'avoir un autre Dieu devant la face? Donc, ce n'est pas si évident que ça de dire que Jésus est fils de Dieu. Peut-être qu'on le répète comme une litanie. Si on approfondit, c'est loin, loin d'être évident. Et avec tout l'Ancien Testament, on a un sacré saut, finalement, à faire. Donc, finalement, de dire Jésus, fils de Dieu, je résume en disant, c'est d'une certaine manière beaucoup trop déterminé. Beaucoup trop précis, beaucoup trop concentré sur une seule et même personne. Puis ça, notre époque actuelle, avouons-le, elle ne l'aime pas tellement. De dire que Jésus est le chemin, la vérité, la vie, dans une société qui se veut pluraliste, c'est une sacrée prise de position. Et pourtant, c'est juste quelques mots. De dire Jésus est le fils de Dieu, qu'il est né d'une vierge, là, généralement, on perd un peu tout le monde, puis on se dit, ouh là là, alors lui... il a fumé je ne sais pas quoi ce matin, mais il n'est pas tout à fait net, hein, là. C'est pas évident. Et du coup, la tentation et le grand risque pour nous en tant que croyants actuellement au XXIe siècle, c'est de faire simplement Jésus un sage parmi les sages, un sage quand même particulièrement important et puis influent, mais d'abandonner ce qu'il y a après la virgule, fils de Dieu. Abandonner ces trois mots, c'est le risque majeur de notre foi au XXIe siècle. C'est le risque que nous courons toutes et tous. Hein. Faut pas croire qu'on est au-dessus puis qu'on vogue au-dessus des flots comme si de rien n'était. Notre risque, c'est de se dire, Jésus finalement, dans ma vie, il est un sage, il est quelqu'un qui me donne peut-être une éthique, une morale, mais il arrête d'être fils de Dieu. Et puis finalement, c'était la même problématique pour les chrétiens, depuis le tout premier jour de l'existence de l'Église. Et puis là, avec les personnes qui se préparent au baptême, on explore aussi les premiers essais de formulation de la foi. Et déjà au IIe siècle, un symbole qui s'appelle le symbole des apôtres et qu'on va pouvoir proclamer tous ensemble dimanche 20 mai au bord du lac à 8h30, qu'est-ce qu'il nous dit ? « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté aux cieux, il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. » Ensuite, ça continue avec l'Esprit-Saint, l'Église et le baptême, et l'espérance de la vie éternelle. Qu'est-ce qui vous frappe là? Par rapport à ce que je dis que Jésus, fils de Dieu, c'est problématique. Vous avez remarqué? Pour Dieu le Père, une phrase. Là, ça paraît assez clair, il est créateur ciel et de la terre. Pour Jésus... On doit vachement préciser, hein. On doit ajouter beaucoup d'éléments pour se dire, effectivement, notre foi, c'est Dieu qui choisit de parler par l'arrivée d'un fils sur cette terre. Ça, c'est tous des éléments, ça ne saute pas au premier abord, mais si on creuse un tout petit peu, c'est tous des éléments qui nous font dire que d'avoir décidé de choisir cette manière-là de nous parler, ça n'a rien d'évident pour nous. Donc notre foi, mes chers frères et sœurs, ce n'est pas si évident que ça, mais elle est super solide. On a besoin de creuser ces éléments-là et de les prendre petit à petit, de les approfondir pour que véritablement ils soient ancrés dans nos cœurs, pour qu'on puisse traverser les tempêtes qui sont peut-être devant nous, au niveau de la foi comme au niveau de la vie. Jésus nous parle véritablement de Dieu. Et puis là, j'espère avoir posé la base qui nous fait aller toujours de l'avant. Et c'est la même problématique pour nous aujourd'hui de continuer d'affirmer cela, comme ça a été la même problématique pour les chrétiens des premiers siècles. Tout au long de l'histoire de l'Église, il ne faut pas qu'on se fasse les petits caliméros, ça a été un combat. Et puis nous, ce qu'on a appelé à faire, simplement de continuer ce combat-là avec joie, force et conviction. De se dire, oui, nous croyons toujours en Jésus, Fils de Dieu. Et qu'est-ce qui nous est dit de ce Jésus, Fils de Dieu ? C'est le verset 3, toujours de ce chapitre 1. Il a des caractéristiques, ce Fils de Dieu par lequel Dieu nous parle. Toute la gloire de Dieu, et puis là je vous remercie beaucoup pour la qualité des chants choisis, parce que ça a vraiment pointé sur ces caractéristiques-là du verset 3. Toute la gloire de Dieu brille sur lui. Ce Fils est vraiment ce que Dieu est. Et sa parole puissante soutient le monde et soutient nos vies. Ça, j'ajoute. Il a lavé les êtres humains de leurs péchés, puis il s'est assis dans les cieux à la droite du Dieu très puissant. Toute la gloire de Dieu brille sur lui. Puis là, je n'ai pas pu résister à vous faire « Ah ben, ça ne marche pas ». Mais normalement, c'était censé être du grec. Alors, je ne vais pas le faire. Mais les deux termes qui sont là, je vous les sors, hein, parce que ça me fait plaisir de faire une fois un peu le théologien. C'est « apagaousma », et ça, on ne le retrouve qu'une seule fois dans la Bible, c'est là. Et puis, c'est le caractère. Ça, c'est beaucoup plus facile pour nous en tant que francophones. C'est le caractère de Dieu que Dieu a imprimé à son Fils. C'est exactement le même terme qu'on emploie tous les jours en français. Hein. Le caractère d'une personne, c'est ce qui fait vraiment sa personnalité. Eh bien, là, dans ce verset, quand il nous dit que ce Fils est vraiment ce que Dieu est, c'est que Dieu, il a imprimé ce caractère sur Jésus. Mais premièrement, il est question de lumière. Il y en a un à ma droite, Jean-Pierre Sbinden, qui aime beaucoup cette expression de rayonnement. Ben là, on est exactement dans cette réalité du rayonnement. Dieu fait briller sur Jésus, son Fils, sa propre lumière. Jésus rayonne de la lumière du Père. Il y a l'idée de resplendissement, il y a l'idée de radier, d'irradier tout ce qui est autour de lui. Et un petit peu plus tard dans l'histoire de l'Église, au Concile de Nicée, on dirait que Jésus, il est lumière de la lumière. Puis ça reprend exactement cette expression de l'Épître aux Hébreux, où il dit, il n'y a pas de différence finalement, mais pourtant il y a distinction des deux personnes. Il y a une même identité de personne. Jésus est vraiment celui qui reflète Dieu. Et puis quand on chante, par exemple, un chant qui s'appelle « Ouvre les yeux de mon cœur », je ne sais pas si vous voyez lequel auquel je fais allusion, mais qui est assez connu. À plein de reprises, on répète cette phrase « Je désire te voir, je désire te voir, je désire te voir, tu es saint, tu es saint. » Et ça m'a fait tilt, je me suis dit, mais en méditant hébreu, là, on dit « on désire voir Dieu », puis on se dit « on n'y arrive pas ». Mais en méditant et puis en s'attardant sur qui est Jésus, c'est notre manière de voir Dieu. Ni plus ni moins, mais c'est assez énorme quand on y pense. Parce qu'on peut chercher de midi à 14 heures, on peut chercher peut-être des expériences extraordinaires. On a la possibilité de voir Dieu à travers le reflet qu'il a décidé de donner à son Fils Jésus, qui rayonne aussi sur nous. C'est pour ça que moi je pense que la méditation de la Bible, ce n'est pas monolithique. Et puis je nous encourage vraiment à oser faire certaines... je ne sais pas quoi, hiérarchie dans notre manière de lire la Bible, parce que la méditation des quatre évangiles, pour moi, c'est notre accès privilégié pour méditer qui est Jésus, et c'est pour méditer et voir Dieu. C'est notre accès quand même privilégié, ensuite c'est tout le Nouveau Testament, toute la Bible bien sûr utile, mais il y a quand même une concentration pour voir qui est Jésus dans ces quatre évangiles qui nous sont donnés. Et puis là, on retrouve presque une idée de ce que nous dit ce premier verset d'Hébreux où Dieu nous parle de mille manières. Il choisit quand même de nous en parler par quatre regards différents de son Fils Jésus, de son ministère sur terre et de son œuvre pour nous. Alors, si nous voulons voir Dieu, méditons ces évangiles parce que c'est un peu sans fin. Hein. Il y a quelqu'un qui s'appelle Richard, qui est venu encore cette semaine ou la semaine passée, ou il y a un mois, dans mon bureau, puis qui m'a dit « t'aurais pas ce commentaire-là sur l'évangile de Matthieu parce que j'ai envie de continuer de creuser finalement qui est Jésus ?» Je ne vous dirai pas son âge, mais c'est déjà un âge respectable. De se dire qu'il y a toujours cette force, cette vie, cette envie d'en savoir plus sur qui est Jésus, finalement peut-être dans le but de voir Dieu et de voir qui est vraiment Dieu. Il rayonne, et puis tous les chants qu'on a chantés ce matin, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils avaient quasiment tous cette connotation de la lumière. Ce Dieu de lumière qui vient nous illuminer, ce Dieu de lumière qui vient nous apporter ces éléments-là, qui rayonne de quoi ? De la gloire de Dieu. Ensuite, je vous ai dit qu'il a ce caractère de Dieu. Jésus-Christ, Fils de Dieu, nous pouvons dire avec certitude, et c'est peut-être la deuxième facette de l'encre, hein, il y a deux côtés. Une encre, c'est qu'il brille de la gloire de Dieu, qu'on peut voir Dieu à travers Jésus-Christ. Et l'autre encre, c'est de se dire qu'il a véritablement la même nature. Puis ça, les trois premiers siècles du christianisme, ça a été de savoir est-ce qu'il est de nature humaine, est-ce qu'il est de nature divine. Et la réponse, ça a été, vous le savez, de choisir aucune des deux options, mais de garder systématiquement les deux ensemble. Et puis ça, c'est vraiment la nature même de Dieu. On n'a pas à choisir. On est toujours tenté de choisir plus spirituel, plus humain, machin, de quel côté on pencherait le plus, puis on fait un peu des critères pour savoir de quel côté penche la balance. Notre objectif en tant que chrétien, c'est de rester équilibré parce que tout simplement, Dieu l'a voulu ainsi. Dieu, il a voulu se révéler et nous parler à travers quelqu'un qui est venu puis qui aurait très bien pu parler comme je vous parle ce matin. Simplement qu'il le faisait depuis une barque ou bien dans d'autres endroits en plein air. Mais il a choisi ce moment-là au premier siècle et cette personne-là, cette manière-là de faire, qu'on appelle ça l'incarnation. C'est-à-dire qu'il vient nous rejoindre là où nous sommes, dans notre propre nature. Il ne vient pas nous rejoindre de manière différente en étant seulement un sage ou quelqu'un de particulièrement lettré ou de particulièrement charismatique. Il vient nous rejoindre en ayant cette identité de Dieu. Il est celui que Dieu est. Or ça, on ne va jamais réussir à l'expliquer complètement. Par contre, c'est véritablement une encre de notre foi. C'est toujours pouvoir affirmer que le Dieu de Jésus-Christ, ça fait une seule et même personne qui se manifeste dans deux réalités différentes. Il y a cette réalité-là que nous ne pouvons pas forcément expliquer, parce que la Trinité, c'est je crois le truc le plus compliqué à expliquer pour un théologien, puis peut-être pour un croyant. Ce que je vous invite à retenir, c'est qu'il y a vraiment cette identité d'être. C'est le verbe « être » qui est employé. Ce n'est pas le verbe « faire », ce n'est pas le verbe « réaliser », ce n'est pas le verbe qui va sur ce champ-là. C'est le verbe simplement de qui est Jésus dans sa nature, dans son identité profonde. Il est l'exacte représentation de Dieu lui-même. Je crois qu'il y a déjà pas mal pour aujourd'hui. Hein. Alors je vous invite pour le prochain épisode, dimanche prochain, à voir comment nous, en tant que croyants, et puis ce sera tout le chapitre 2 des Hébreux, donc vous pouvez aussi le méditer là, pour la semaine prochaine d'une certaine façon, tout le chapitre 2 des Hébreux nous montre comment nous, en tant qu'êtres humains, on arrive à entrer dans cette relation unique qu'il y a entre Dieu, le Père et l'Esprit. Le but, c'est qu'ils n'ont pas voulu simplement faire leur truc pour eux, entre eux, mais qu'ils ont décidé de se révéler et de nous faire entrer dans cette réalité-là. Et le terme qu'ils emploient pour nous faire entrer dans cette réalité-là, c'est le terme de Jésus comme notre frère, et c'est cette idée de fraternité en Christ. Être témoin en tant que frère de Jésus-Christ. Alors, suite au prochain épisode, dimanche prochain, soyez tous là, aussi derrière votre caméra, et bonne méditation sur cette semaine de ce que nous avons pu voir, simplement à travers ces trois versets d'Hébreux 1. Amen.